From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the 177th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. This session is being carried to thousands of meeting houses throughout the world. Music for this session will be provided by the Combined Men's Choir from Brigham Young University. Thomas S. Monson, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct tonight's priesthood session.
We welcome you, brethren, to the general.
Mes frères, nous vous souhaitons la bienvenue à cette session générale de la prêtrise de la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Le président Hinckley, qui préside cette conférence, m'a demandé à moi, frère Monson, de diriger cette session. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis dans le tabernacle, l'Assembly Hall, le Marriott Center de l'Université Brigham Young, le Centre de formation missionnaire de Provo et dans des bâtiments de nombreux pays du monde. Les chants de cette session seront interprétés par un chœur de la prêtrise de l'Université Brigham Young sous la direction de Ronald Staley avec John Longhurst à l'orgue. Nous commencerons cette session de la prêtrise en écoutant le chœur chanter « Rise up, O men of God ». Ensuite, Wayne Peterson, des 70, fera la prière d'ouverture.
Our kind and eternal Heavenly Father,
notre doux et bon Père Céleste, nous sommes heureux d'être rassemblés ce soir en tant que détenteurs de la prêtrise dans ce merveilleux centre de conférence et à travers le monde. Nous sommes heureux et reconnaissants du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ dans ces derniers jours. Nous sommes reconnaissants pour le don de ton Fils unique, pour sa vie, pour ses enseignements, pour son exemple parfait, pour son expiation et pour sa glorieuse résurrection. Nous sommes reconnaissants pour les prophètes et les apôtres que nous avons aujourd'hui, Nous sommes reconnaissants pour la première présidence et le Collège des Douze. S'il te plaît, bénis-les et accorde une bénédiction particulière à notre prophète bien-aimé, président Hinckley. Continue à le bénir, à le renforcer, afin qu'il continue à donner une direction guidée et inspirée à travers l'Église. Nous te demandons de nous bénir avec ton esprit, afin que nous soyons instruits aujourd'hui, pour que ceux qui parlent et qui participent d'une manière ou d'une autre puissent le faire à ta manière. Nous te demandons de bénir les missionnaires et leurs présidents de mission à travers le monde. Bénis-les, protège-les, où qu'ils soient engagés. Ces merveilleux jeunes hommes qui partagent la liberté dans le monde entier. S'il te plaît, bénis-les, regarde sur eux. Maintenant, dans ce jour de redédicace, de reconsécration, nous prions que ton esprit soit avec nous pour que nous puissions redédicacer nos vies dans nos responsabilités en tant que détenteurs de prêtrise, pour que nous puissions magnifier pleinement nos appels pour t'amener des âmes, pour pourvoir aux ordonnances que nous pouvons leur donner pour ramener tes esprits dans ta présence. Et que ton esprit soit sur nous alors que nous sommes assemblés. Nous te demandons toutes ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, Brother Peterson.
Merci, Frère Peterson. Le chœur va maintenant chanter brillamment l'amour du Père. Après le chant, Joseph B. Worthlin et Robert D. Hales du Collège des Douze Apôtres nous adresseront la parole. Après leur discours, nous entendrons Keith B. McMullen de l'Épiscopat président.
Lately, I have reflected.
Récemment, j'ai repensé aux nombreuses expériences prodigieuses que j'ai eues dans ma vie. En remerciant mon Père Céleste pour ses bénédictions merveilleuses et ses occasions, je me suis rendu compte, sans doute plus que jamais, combien mes années de formation avaient été cruciales. La plupart des moments importants et déterminants de ma vie se sont produits quand j'étais jeune homme. Les leçons que j'ai apprises alors ont formé mon caractère et façonné mon destin. Sans elles, je serais un homme très différent de ce que je suis, et je serais dans une situation différente de celle que je connais aujourd'hui. Ce soir, je vais aborder pendant quelques instants certaines de ces expériences et ce qu'elles m'ont appris. Je n'oublierai jamais ce match de football américain où mon lycée jouait contre une école adverse. J'étais ailier, ma tâche consistait soit à bloquer l'arrière, soit à essayer de me démarquer pour que le quart arrière, le quarterback, puisse m'envoyer la balle. La raison pour laquelle je me souviens si bien de ce match, c'est que le joueur qui était de l'autre côté du ballon, celui que je devais bloquer, était un géant. Je n'étais pas exactement l'athlète le plus grand au monde, mais je pense que mon adversaire devait l'être. Je me rappelle que je le regardais d'en bas en pensant qu'il devait faire le double de moi. Vous devez vous souvenir qu'à l'époque où je jouais, nous n'avions pas de protection, comme en portent les joueurs d'aujourd'hui. Mon casque était en cuir et je n'avais pas de grille de casque. Plus j'y pensais, plus je me rendais compte avec effroi que si je le laissais m'attraper, je pourrais bien passer le reste de la saison à encourager mon équipe depuis un lit d'hôpital. Par chance, j'étais rapide. Et durant presque toute la première mi-temps, j'ai réussi à l'éviter. Sauf à un moment. Notre quart arrière s'est retourné pour faire une passe. J'étais démarqué. Il a envoyé la balle et elle s'est mise à voler vers moi. Le seul problème, c'est que je pouvais entendre un galop pesant derrière moi. Dans un moment de lucidité, j'ai compris que si j'attrapais la balle, il y aurait de grandes chances que je doive prendre mon prochain repas à travers une paille. Mais la balle se dirigeait vers moi, et mon équipe comptait sur moi. Alors je l'ai attrapée, et à la dernière seconde, j'ai levé les yeux. Il était là. Je me souviens que la balle a touché ma main. Je me souviens d'avoir lutté pour m'y accrocher. Je me souviens du bruit de la balle lorsqu'elle est tombée sur le gazon. Après cela, je ne suis pas très sûr de ce qui s'est produit, car le géant m'a percuté si fort que je n'étais plus certain de la planète sur laquelle j'étais. Il y a une chose dont je me souviens, c'est la voix profonde qui me parvenait, comme à travers une brume obscure. Cela t'apprendra à faire partie de la mauvaise équipe. William McKinley Oswald était l'entraîneur de mon équipe de football américain. C'était un grand entraîneur, et il a eu une grande influence dans ma vie. Mais je crois qu'il avait dû apprendre ses méthodes pour motiver une équipe d'un sergent instructeur de l'armée. Ce jour-là, pendant son discours de la mi-temps, le coach Oswald a rappelé à toute l'équipe que j'avais laissé tomber la balle. Puis en pointant son doigt dans ma direction, il a dit « Comment as-tu pu faire cela ?» Croyez-moi, il ne parlait pas avec sa voix intérieure. Je veux savoir ce qui t'a fait lâcher cette balle. J'ai bégayé un moment, puis j'ai finalement décidé de lui dire la vérité. Je lui ai dit, j'ai détaché mes yeux du ballon. L'entraîneur m'a regardé et a dit, c'est cela, tu as détaché tes yeux du ballon, ne refais jamais cela. C'est des erreurs comme ça qui font perdre les matchs. J'avais du respect pour l'entraîneur, et en dépit de ce que je ressentais, j'ai pris la décision de faire ce qu'il me disait. J'ai fait le vœu de ne plus jamais détacher les yeux du ballon, même si cela voulait dire être catapulté en Mongolie par le géant de l'équipe adverse. Nous sommes retournés sur le terrain et avons commencé la deuxième mi-temps. Le match était serré, et bien que mon équipe ait bien joué, nous étions en retard de 4 points dans cette dernière période. Le quart arrière a appelé de nouveau mon numéro à la remise en jeu suivante. De nouveau, j'ai couru en avant. De nouveau, j'étais démarqué. La balle se dirigeait vers moi. Mais cette fois-ci, le géant était devant moi et dans une position parfaite pour intercepter la passe. Il a sauté, mais la balle est passée entre ses mains. J'ai sauté plus haut, sans détacher mes yeux du ballon. Je l'ai attrapé et je l'ai tiré vers le bas pour marquer l'essai qui devait faire gagner le match à mon équipe. Je ne me souviens pas très bien des réjouissances après le match, mais je me souviens de l'expression du visage de mon entraîneur. « Pour ça, tu n'as pas détaché les yeux du ballon », a-t-il dit. Je crois que j'ai gardé le sourire pendant une semaine. J'ai connu beaucoup de grands hommes et de grandes femmes, bien qu'ils viennent d'horizons différents, avec des perspectives et des talents différents. Ils ont tout ceci en commun. Ils travaillent diligemment et avec constance pour atteindre leur but. Alors que beaucoup se laissent distraire et perdent de vue les choses les plus importantes de la vie, j'ai essayé de mettre en priorité les valeurs qui sont les plus importantes pour moi de façon à me concentrer sur les choses qui ont vraiment de l'importance. Je vous exhorte à faire le point sur votre vie. Déterminez où vous en êtes et ce que vous devez faire pour devenir le genre de personne que vous voulez être. Forgez-vous des buts inspirants, nobles et justes, qui vont enflammer votre imagination et enthousiasmer votre cœur. Puis gardez les yeux fixés dessus. Œuvrez pour les atteindre. Si un homme avance avec confiance en direction de ses rêves, a écrit Henri David Thoreau, et s'engage à vivre la vie qu'il avait imaginée, il parviendra à un succès inattendu. En d'autres termes, ne détachez jamais vos yeux de la balle. Il y a une autre leçon que j'ai apprise sur le terrain de football, enseveli sous une mêlée de 11 autres joueurs. C'était le championnat de la conférence des montagnes rocheuses. Et je devais courir avec le ballon jusqu'au milieu du terrain, manœuvrant entre les joueurs pour marquer l'essai qui nous permettrait de dépasser l'autre équipe. J'ai pris le ballon et j'ai traversé les lignes adverses. Je savais que j'étais près de la ligne de touche, mais je ne savais pas à quel point. Bien que je sois en dessous de la mêlée, j'ai allongé les doigts de quelques centimètres et j'ai senti la ligne. Elle était à 5 centimètres. À ce moment-là, j'ai été tenté de pousser le ballon en avant. J'aurais pu le faire. Et lorsque l'arbitre aurait fait se relever la mêlée, j'aurais été un héros. Personne n'en aurait jamais rien su. J'avais rêvé de ce moment-là depuis que j'étais petit garçon. Et c'était à portée de main. Mais je me suis rappelé les paroles de ma mère. « Joseph, m'avait-elle souvent dit, fais ce qui est bien, quelles qu'en soient les conséquences. Fais ce qui est bien, et tout ira pour le mieux. » Je voulais désespérément marquer cet essai. Mais plus que d'être un héros aux yeux de mes amis, je voulais être un héros aux yeux de ma mère. Et j'ai donc laissé le ballon là où il se trouvait, à 5 cm de la ligne de touche. Je ne le savais pas à l'époque, mais cela devait être une expérience décisive. Si j'avais déplacé le ballon, j'aurais pu être le héros d'un moment, mais la récompense d'une gloire éphémère aurait comporté un prix trop élevé et trop durable. Cela aurait gravé dans ma conscience une cicatrice qui serait restée pour le reste de ma vie. Je savais que je devais faire ce qui était juste. La lumière du Christ nous aide à discerner le bien du mal. Quand nous laissons les tentations étouffer la petite voix douce de notre conscience, alors les décisions deviennent difficiles. Mes parents m'ont enseigné à réagir rapidement à la tentation et à dire non, instantanément et catégoriquement. Je vous recommande de faire de même. Évitez les tentations. Une autre leçon que j'ai apprise, c'est la joie de servir autrui. J'ai déjà parlé de la façon dont mon père, qui était l'évêque de notre paroisse, me faisait remplir mon chariot pour apporter des provisions chez les familles nécessiteuses. Mais il n'était pas le seul à vouloir tendre la main à ceux qui étaient dans la détresse. Il y a 75 ans, l'évêque William Pershon était l'évêque de la 4e paroisse du Pieux des pionniers de Salt Lake City. Il avait émigré d'Allemagne, était un converti et parlait avec un fort accent. C'était un excellent homme d'affaires. Mais ce qui le caractérisait le plus, c'était sa grande compassion. Chaque semaine, pendant la réunion de la prêtrise, l'évêque faisait réciter au détenteur de la prêtrise, d'Aaron, la phrase suivante. « La prêtrise signifie le service. En tant que détenteur de la prêtrise, je servirai. » Ce n'était pas juste un slogan. Quand des veuves avaient besoin d'aide, frère Pershon et la prêtrise d'Aaron étaient là pour aider. Quand on construisait une église, frère Pershon et la prêtrise d'Aaron étaient là. Quand il fallait désherber ou récolter les betteraves à sucre ou les pommes de terre, frère Pershon et la prêtrise d'Aaron étaient là. Plus tard, frère Pershon a servi dans une présence de pieux et a influencé un jeune évêque du nom de Thomas S. Monson. Dans les années 50, frère Pershon a été appelé à présider la mission suisse-autrichienne et a joué un rôle décisif dans la construction du premier temple d'outre-mer à l'extérieur de l'Amérique du Nord, à Berne, en Suisse. Il est difficile de penser à Frère Pershon sans penser à son souci des autres, à sa compassion pour eux et à son engagement sans faille pour enseigner ces mêmes qualités aux autres. Des jeunes gens de la prise d'Aaron, dont il avait été responsable en tant qu'évêque, 29 sont devenus eux-mêmes évêques. 10 ont servi dans des présidences de pieux. 5 sont devenus présidents de mission. 3 ont accepté l'appel de président de temple. Et 2 ont servi comme autorité générale. C'est cela le pouvoir d'un grand dirigeant. C'est cela le pouvoir du service. Bien que je ne l'ai pas pleinement compris à l'époque, il est clair pour moi aujourd'hui que ces leçons et beaucoup d'autres que j'ai apprises dans ma jeunesse ont posé les fondations sur lesquelles le reste de ma vie a pu être construit. Nous possédons tous des dons spirituels. Certaines personnes sont dotées du don de la foi, d'autres du don de guérison. Dans le corps de l'Église, il y a tous les dons spirituels. En ce qui me concerne, l'un des dons spirituels dont je suis peut-être le plus reconnaissant dans ma vie est celui de l'obéissance. Lorsque je recevais de sages conseils de la part de mes parents ou des dirigeants de l'Église, j'écoutais et j'essayais de les intégrer dans mes pensées et mes actions. Mes frères de la prêtrise, je vous exhorte à cultiver le don de l'obéissance. Le Sauveur enseignait, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Comment savoir si nous sommes prudents ou insensés? Si lorsque nous entendons des conseils inspirés, nous y obéissons? C'est le test pour savoir si nous sommes prudents ou insensés. À quoi cela nous sert-il d'entendre de sages conseils si nous ne les mettons pas en pratique? À quoi sert l'expérience si nous n'en tirons pas les leçons? À quoi servent les Écritures si nous n'en chérissons pas les paroles au point de les intégrer à notre vie? Le président Hinckley nous a promis que notre Père Céleste ferait pleuvoir ses bénédictions sur ceux qui marchent dans l'obéissance à ses commandements. J'ajoute mon témoignage au sien. Je témoigne que Jésus est le Christ vivant, le Sauveur de toute l'humanité. Je témoigne que Dieu est proche de nous. Il se soucie de nous, car il aime ses enfants. Des prophètes, voyants et révélateurs dirigent les progrès de l'Église de Jésus-Christ rétabli. Le président Hinckley est le prophète de ces derniers jours, pour l'Église et pour le monde. Je remercie mon Créateur pour cette vie merveilleuse, où nous avons tous l'occasion d'apprendre des leçons que nous ne pourrions pas comprendre pleinement de quelque autre façon. Mes chers frères, puissions-nous nous fixer de justes buts et travailler à les atteindre. Faites ce qui est bien. Étendez la main avec amour à ceux qui vous entourent. J'en témoigne, c'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, Joseph. We love you.
Merci, frère Joseph. Nous vous aimons beaucoup. Quelle joie d'être parmi vous, frères, réunis dans le monde entier. Cela me rappelle les paroles d'un cantique. Vois cette armée royale, étendard déployé, marchant à la bataille, sans souci du danger. Oui, vous êtes l'armée royale de Dieu, loyal et fidèle. Ce soir, je vais m'adresser aux jeunes membres de cette armée royale, la prêtrise d'Aaron, les diacres, les instructeurs et les prêtres qui s'aventurent sur le champ de la bataille de la vie. Bien que vous ne vous souveniez pas, vous êtes engagés dans cette cause en prenant une seule décision, il y a longtemps, dans notre existence prémortelle. Là, dans le grand conseil, dans les cieux, vous avez décidé d'obéir à la volonté de votre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ. Souvenez-vous, vous êtes fils de Dieu et avez choisi de suivre le Sauveur au moment le plus important. Et cela fait de chacun de vous un grand homme. En raison de cette décision divine qui a décidé de votre progression éternelle, vous avez reçu un corps physique, acquis le libre arbitre pour choisir le bien au lieu du mal. Et à présent, vous vous améliorez, vous préparez à acquérir les attributs de notre Sauveur. Vous avez été baptisé, avez reçu le Saint-Esprit. Vous apprenez qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et où vous allez. Et maintenant, vous avez reçu la prêtrise d'Aaron. La prêtrise d'Aaron est la prêtrise préparatoire donnée pour cette période de préparation de votre vie. La manière dont vous détenez cette prêtrise maintenant vous préparera à prendre les décisions les plus importantes à l'avenir. Ces décisions incluent la réception de la prêtrise de Melchizedek, l'assistance au temple, l'accomplissement d'une mission, la poursuite d'études, le choix d'une profession, d'une épouse et le scellement pour le temps et l'éternité dans le temple. Il y a un temps et une saison pour toutes nos décisions. Veillez à prendre les décisions au bon moment et à la bonne saison. Toutes ces décisions qui influencent une vie entière seront prises dans une période relativement courte et très chargée, quand vous aurez la vingtaine, ce que j'appelle la décennie décisive. Pendant ma formation de pilote d'avion de combat, je me suis préparé à prendre des décisions vitales de ce genre dans un simulateur de vol. Par exemple, je me suis exercé à décider quand je devais sauter en parachute, si le voyant d'alarme incendie s'allumait et que je commençais à tomber en vrille. Je me rappelle un ami qui n'a pas fait ses préparations. Il réussissait à échapper à la formation, à la simulation de vol, puis aller jouer au golf ou aller nager. Il n'a jamais appris les procédures d'urgence. Quelques mois plus tard, un incendie s'est déclaré dans son avion et il a commencé à tomber en vrille. Remarquant le voyant d'alarme incendie, son jeune équipier ayant acquis des réflexes savait quand sauter en parachute, ce qu'il a fait, et il a atterri sain et sauf. Mais mon ami qui ne s'était pas préparé à prendre cette décision est resté dans l'avion et est mort dans le crash. Dans les décennies à venir, vous aurez peu de temps pour vous préparer. En tant que détenteur de la prêtrise d'Aaron, il est important de vous préparer maintenant. Vous devez acquérir vos réflexes préconditionnés pour les décisions importantes que vous prendrez dans la décennie suivante. Vous devez savoir quoi faire et quand le faire pour chaque décision qui se présentera. Souvenez-vous que ne pas prendre de décision peut être aussi préjudiciable que de prendre la mauvaise. Beaucoup de décisions que vous prendrez ou ne prendrez pas auront des conséquences éternelles. C'est maintenant qu'il faut devenir un disciple de Jésus-Christ, ce qui implique d'accepter son invitation « Viens et suis-moi ». C'est la décision que nous avons prise dans la préexistence. À présent, nous devons la prendre de nouveau dans la condition mortelle, chaque jour, dans toutes les situations, en prenant le nom du Sauveur sur nous, en nous souvenant de son sacrifice expiatoire et en respectant ses commandements. Ce sont les alliances que nous avons contractées à notre baptême, et nous avons l'occasion de renouveler ces alliances chaque semaine en prenant la Sainte Cène. C'est maintenant qu'il faut nous organiser et nous préparer pour avoir la compagnie constante du Saint-Esprit. Cela signifie faire ce que vos parents et dirigeants vous ont enseigné de faire, étudier les Écritures, prier matin et soir, être propre et soigné, suivre un emploi du temps, vous fixer des buts, des objectifs et les atteindre, être honnête dans vos relations, respecter vos engagements et être digne de la prêtrise que vous détenez. Vivez toujours, oui, toujours, les principes révélés par les prophètes dans la brochure « Jeunes, soyez forts ». C'est maintenant qu'il faut décider de vos amis et devenir digne d'une épouse éternelle juste. C'est très simple, frère. Comme ma mère me l'a enseigné, qui se ressemble, s'assemble. Votre entourage peut vous inciter à faire de grandes choses ou vous tenter et vous faire prendre des chemins étranges et pénibles. Les vrais amis rendent plus facile de vivre l'Évangile. Ils ne nous font jamais choisir entre leur voie et celle du Seigneur. Ils nous aident à être le genre de personnes qui attirent d'autres véritables amis. Et ils nous aident à devenir le genre de personnes avec qui une épouse juste pourra choisir d'être pour toujours. Si vous voulez ce genre d'amis, demandez-vous, suis-je cet ami pour les autres? Suis-je le genre de personne que je veux que mon épouse éternelle soit? C'est maintenant qu'il faut vous préparer à votre mission. Selon votre situation personnelle, vous pourrez peut-être accomplir une mission de prosélytisme à plein temps. Bien que cela soit important, rappelez-vous qu'il est encore plus important d'aller au temple en allant en mission. Une mission est une occasion inestimable de respecter les alliances du temple en vivant la loi de consécration, en consacrant tout votre temps, vos dons et vos talents au Seigneur, et en le servant de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de toute votre force. J'ai toujours considéré vos 2 années de service comme la dîme des 20 premières années de votre vie. Mais même si vous n'êtes pas en mesure de faire une mission à plein temps, vous pouvez vous préparer pour un jour, le moment venu, vous rendre au temple pour contracter des alliances sacrées afin de pouvoir recevoir vos bénédictions éternelles. C'est maintenant qu'il faut vous préparer à une formation, à des études et à un métier. Jeunes gens de la prêtrise d'Aaron, vous en êtes au stage de la vie. Votre persévérance à l'école vous qualifiera dans le futur pour suivre le conseil du président Hinckley, de faire toutes les études que vous pouvez. Décidez maintenant de faire de votre mieux dans les études et au travail. Alors, quand les occasions se présenteront à votre porte, vous serez prêt à l'ouvrir et à les saisir. Nous devons tous nous rappeler que chacun reçoit un don. Cultivez vos dons et vos talents. Jeunes gens, choisissez à l'aide de la prière les cours, les programmes de formation et les emplois qui vous préparent à de meilleures possibilités et à davantage de responsabilités à l'avenir. C'est maintenant qu'il faut obéir. Dans la préexistence, notre obéissance n'était pas sélective. Nous n'avons pas choisi les parties du plan éternel que nous voulions suivre. J'ai appris cette leçon lors de notre premier vol de nuit en solo durant mon entraînement de pilote, quand nous avons tous reçu la consigne suivante. Ne faites pas d'acrobatie la nuit. Vous êtes des pilotes débutants qui n'avaient pas été formés aux instruments de bord. Quelque temps après, un pilote, bon par ailleurs, et un grand ami, a choisi de désobéir à cet ordre. Tandis qu'il faisait des boucles, des tonneaux en spirale dans le ciel nocturne du Texas, il a regardé à travers la verrière de la cabine de pilotage et a pris ce qu'il voyait au-dessus de lui pour des étoiles, mais c'était en fait les lumières d'un derrick. Il était pris de vertige. La pesanteur de l'avion donnait l'impression qu'il était à l'endroit, alors qu'il était à l'envers. Quand il a remonté la manche pour prendre de l'altitude dans le ciel nocturne, il a piqué vers la terre et s'est écrasé dans les lumières clignotantes du gisement de pétrole en dessous. Quand on pilote un avion, si l'on change de position d'un seul degré à la fois, l'oreille interne ne détecte pas le changement. Frères, jeunes et moins jeunes, lorsque nous pratiquons l'obéissance sélective, nous changeons notre position vis-à-vis du Seigneur, et cela se produit généralement 1 degré à la fois. Quand les forces trompeuses de l'adversaire agissent sur nous, nous ne pouvons pas les détecter, et nous éprouvons un vertige spirituel. Bien que nous ayons l'impression d'aller dans la bonne direction, nous courons en fait à la catastrophe. Dans la préexistence, notre décision de suivre le Seigneur était inconditionnelle. C'est en suivant ce modèle dans la condition mortelle que chacun de nous retournera à notre Père céleste. C'est maintenant qu'il faut faire bon usage de notre temps. Cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Je témoigne que votre temps sur terre suffira si vous apprenez à en faire bon usage pendant votre jeunesse. Oh, souviens-toi, mon fils, et apprends la sagesse dans ta jeunesse. Oui, apprends dans ta jeunesse à garder les commandements de Dieu. C'est maintenant qu'il faut protéger votre droit de naissance. Vers la fin de sa vie, Jacob, prophète de l'Ancien Testament, a donné une bénédiction paternelle à chacun de ses fils. Ruben était le premier-né et avait le droit d'aînesse. Des bénédictions particulières lui étaient destinées. Mais son père lui a dit, « Tu es impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Réfléchissez un instant à ce que signifie l'expression impétueux comme les eaux. Quand l'eau devient chaude, elle s'évapore. Quand elle devient froide, elle gèle. Lorsqu'elle n'est pas canalisée, elle érode et détruit tout ce qui est sur son passage. Détenteur de la prêtrise d'Aaron, vous avez également un droit du fait de votre naissance. Je vous exhorte à être obéissant et fort. Je vous exhorte à ne pas laisser se dissiper votre détermination ni à laisser évaporer votre engagement à suivre le Sauveur. Soyez solide comme un roc en vivant l'Évangile. Nul d'entre nous ne connaît toutes les bénédictions qui vous attendent. La seule manière de perdre ces bénédictions est d'y renoncer par notre désobéissance. Ne renoncez pas à votre héritage éternel pour les choses de ce monde. Soyons obéissants et préparons-nous aujourd'hui à honorer, protéger et recevoir notre droit de naissance glorieux. Jeunes gens, vous êtes la force vitale de l'armée du Seigneur, les 2000 jeunes guerriers de ces derniers jours. Tout ce que vous semez, vous le moissonnerez aussi. Voyant la moisson glorieuse qui nous attend, je vous invite à méditer sur la manière dont vous prendrez des décisions dans la décennie à venir. La loi de la moisson propose un modèle de prise de décision. Préparez la terre par la prière, en sachant que vous êtes fils de Dieu. Plantez les graines en tenant conseil avec les personnes qui vous donneront de bons conseils. Ensuite, recherchez la direction du Saint-Esprit. Permettez aux graines de l'inspiration de pousser. Les idées naissantes doivent être entretenues. Elles ont besoin de temps pour mûrir. La lumière de l'inspiration apportera la récolte spirituelle lorsque vous demanderez à notre Père Céleste, en priant, si vous avez pris la bonne décision. Si vous suivez cette lumière, l'obscurité s'estompera et la lumière deviendra de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Pour finir, soyez là. Chacun de nous était là au conseil dans les cieux pour choisir le grand plan du bonheur dont nous bénéficions maintenant. Jeunes gens, une fois que vous avez pris un engagement vis-à-vis de vous-même, de votre famille, de votre évêque, de votre employeur, soyez là. Lorsqu'il faudra être à l'église, à une activité d'échange ou accomplir une tâche de la prêtrise, soyez là. Lorsque viendra le temps d'obtenir un diplôme de fin d'études ou de programme de formation, soyez là. Lorsque viendra le temps de faire une mission, soyez là. Lorsque la jeune femme que vous aimez s'agenouillera à l'autel sacré du temple de Dieu, soyez là, et pas comme témoin. Lorsque votre famille sera réunie dans le royaume céleste, soyez là. Lorsque le Sauveur attendra pour vous saluer, rentrant de votre vie sur terre avec honneur, et que notre Père céleste attendra pour vous prendre dans les bras de son amour, soyez là. C'est maintenant qu'il faut vous préparer à votre décennie de décision. Soyez là. Soyez fidèles, vous, hommes de Dieu. Puissions-nous être dignes pour que de dignes jeunes femmes de Dieu soient aussi à notre côté. Que nous puissions l'honorer comme nous honorons le Seigneur. Je témoigne que notre Père Céleste sait que vous êtes ici ce soir, car vous faites partie de sa royale et puissante armée, au rang nombreux de soldats, unis et hardis, qui suivent leurs commandements et chantent leur chant joyeux, victoire, victoire par celui qui nous a rachetés, victoire, victoire par Jésus, notre Seigneur. Il est là. Il veut que nous retournions à sa présence, il nous dirige, et notre victoire est en lui. J'en rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
My dear brethren,
mes chers frères, que nous sommes bénis d'être réunis avec la première présidence et les 12 apôtres. Chaque détenteur de la prêtrise présent, qu'il ait 12 ou 112 ans, peut, grâce à notre Sauveur Jésus-Christ, hériter l'ordre céleste de la vie. Quand on y réfléchit, c'est merveilleux. Et je sais que c'est vrai. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et je sais que c'est vrai. C'est vous qui décidez de votre monde. Ayant cette perspective, écoutez l'histoire suivante. Un jeune homme, plein d'ambition et d'énergie, s'est inscrit dans une bonne université. À l'époque, il était prêtre dans la prêtrise d'Aaron. Son but était élevé. Il voulait devenir médecin. Son objectif était ambitieux. Il voulait être riche. Il voulait jouer au football. Il est donc allé voir les entraîneurs et il a fini par faire partie de l'équipe. Maintenant, il allait pouvoir être reconnu et se vanter de droits uniques dans le monde du sport universitaire. C'est ce qu'il avait en tête. Mais il n'avait pas beaucoup réfléchi à quelque chose qui allait finir par faire écrouler ses ambitions élevées et vaines. Il avait oublié qu'il fallait se préparer. Il avait négligé l'importance d'une préparation convenable, la nécessité d'une assistance régulière et d'une étude rigoureuse et le cours de chimie de l'université. La conséquence a été rapide et impitoyable. Cela a pris moins de 90 jours. C'est arrivé de la manière suivante. Le jour où, avec son 1m73 et ses 77 kilos, il s'est retrouvé sur la ligne de mêlée face à un colosse de l'équipe universitaire, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé de sport. Peu habitué à étudier de manière rigoureuse, ses yeux et son esprit ont refusé de fonctionner après un peu de temps passé dans les livres. Le summum de la défaite a été l'examen final de chimie. Il suffit de dire que ses réponses aléatoires aux questions à choix multiples n'ont même pas confirmé la loi du hasard. Il a misérablement échoué. Beaucoup de travail, une mission qui a éveillé en lui une bonne vision des objectifs de la vie et une préparation sans relâche ont fini par effacer les conséquences de sa brève période de sottise. Mais il m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des cauchemars à propos de ce cours de chimie. Heureusement, le Seigneur nous a montré comment éviter ce genre de sottise et de chagrin. Il a dit, « Écoute, ô peuple de mon Église, écoutez, peuple lointain, et vous, qui êtes dans les îles de la mer, prêtez tous l'oreille. Préparez-vous pour ce qui va arriver, car le Seigneur est proche. » Les enseignements sur la seconde venue du Messie nous fournissent l'une des plus grandes motivations pour nous préparer et bien agir. Notre Père Céleste sait que la promesse de récompense encourage ses enfants à agir avec droiture et que l'annonce de punition crée la hantise de mal agir. C'est ce que contiennent les révélations concernant la seconde venue de notre Seigneur. Ces révélations parlent de signes et de prodiges sur la terre et dans le ciel. Elles annoncent des temps troublés et l'imminence d'événements extrêmement graves et longs. Mais surtout, nous recevons les promesses divines suivantes. Le Seigneur aura pouvoir sur ses saints, règnera au milieu d'eux, afin que par ma providence, malgré les tribulations qui s'abattront sur vous, l'Église reste indépendante par-dessus toutes les autres créations en dessous du monde céleste. Et, si vous êtes préparés, vous ne craindrez pas. Les détenteurs de la prêtrise sont conduits par ces promesses à se préparer avec leur famille à l'apparition du Seigneur. Nous n'avons pas à avoir peur des événements précédant la seconde venue. Soyons plutôt remplis de gratitude pour notre compréhension de ce qui va arriver. Apprécions d'être en charge de notre monde, étant les agents du Seigneur pour ce qu'il nous a confié. La formule de la réussite est simple, être fidèle, dégager sa vie de ce qui l'encombre et se préparer. Être fidèle. En tant que détenteurs de la prêtrise, nous nous efforçons d'agir et de parler avec gentillesse. Nous sommes des gens qui prient, qui sanctifient le jour du sabbat et qui connaissent la parole de Dieu. Nous payons la dîme, jeûnons et donnons des offrandes de jeûne généreuses. Nous respectons nos alliances et nous consacrons notre vie à l'édification du royaume de Dieu. Et mes frères, nous nous préparons. Si nous faisons ces choses, le Seigneur aura pouvoir sur ses saints et régnera au milieu de nous. Dégagez sa vie de ce qui l'encombre. En tant qu'homme de Dieu, nous nous détournons de l'excès et allons vers ce qui édifie, car ce qui n'édifie pas n'est pas de Dieu. Si des affaires, des engagements, des quêtes ou des emplois du temps nous empêchent de mettre Dieu en premier, nous devons faire marche arrière et dégager notre vie de ce qui l'encombre. Si nous avons des dettes, nous les payons et nous vivons autant que possible sans dettes. Et mes frères, nous nous préparons. Puis, par la providence du Seigneur, malgré les tribulations, l'Église et ses membres resteront indépendants. Se préparer. La femme a un rôle déterminant pour cela, mais elle a besoin d'un mari qui dirige la préparation familiale. Les enfants ont besoin de parents qui leur inculquent cette bonne tradition. Ils feront ensuite pareil avec leurs enfants, et leurs réserves ne feront pas défaut. Un principe capital de l'Évangile est de se préparer pour les jours de pénurie. Le travail, l'industrie et la frugalité font partie de l'ordre royal de la vie. Souvenez-vous des paroles suivantes de Paul. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Assis devant nous se trouvent les trois grands prêtres présidents qui constituent la première présidence de l'Église. De James E. Faust, deuxième conseiller, nous entendons. Le père et la mère sont les magasiniers des réserves familiales. Ils devraient avoir en réserve tout ce que leur famille aimerait avoir en cas de besoin. Et Dieu nous soutiendra pendant nos épreuves. Thomas S. Monson, premier conseiller, a dit « Beaucoup plus de gens pourraient résister aux vagues houleuses de leur situation financière s'ils avaient une année de réserve de nourriture et s'ils n'avaient pas de dettes. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup ont suivi ce conseil à l'envers. Ils ont au moins une année de réserve de dettes et n'ont pas de nourriture. » Gordon B. Hinckley, prophète du Seigneur, a dit « Le meilleur endroit pour mettre de la nourriture de côté, c'est chez nous. » Nous pouvons commencer très modestement. Nous pouvons commencer par des réserves de nourriture pour une semaine et les augmenter graduellement jusqu'à un mois, puis trois mois. Je crains qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont l'impression que des réserves de nourriture à long terme sont totalement hors de portée et ne font aucun effort du tout. Commencez petit et augmentez graduellement pour atteindre un objectif raisonnable. Une préparation inspirée repose sur le fondement de la foi en Jésus-Christ, de l'obéissance et d'un mode de vie prévoyant. Les membres ne doivent pas tomber dans les extrêmes, mais ils doivent commencer. Nous appelons les détenteurs de la prêtrise à faire suffisamment de réserves pour qu'avec votre famille, vous puissiez surmonter les vicissitudes de la vie. Veuillez vous assurer que les personnes confiées à vos soins reçoivent la brochure intitulée « All is safely gathered in »,« Tout est rassemblé en sécurité ». Exhortez-les à se préparer maintenant pour les jours difficiles qui viendront. Dirigeants de la prêtrise, enrôlez la société de secours pour promouvoir la préparation familiale et la production au foyer. Les femmes de l'Église ont besoin de votre soutien et elles répondront à vos directives. Toutes les auxiliaires de l'Église peuvent aider les membres à cultiver la foi et la frugalité. Recommandez à nos membres de mettre régulièrement dans leurs réserves quelques denrées alimentaires de base saine et de l'eau potable. Ils doivent faire des économies, ne serait-ce que quelques pièces chaque semaine. Cette approche modeste leur permettra rapidement d'avoir plusieurs mois de réserve. Avec le temps, ils pourront transformer ces efforts modestes en réserve à long terme, en ajoutant des aliments essentiels comme les céréales, les légumineuses et autres denrées de base qui les garderaient en vie s'ils n'avaient rien d'autre à manger. Si nous faisons de notre mieux, nous pouvons être sûrs que la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Nous aurons davantage de sagesse, de sécurité, de paix de l'esprit et de bien-être. Nous serons préparés et, étant préparés, nous ne craindrons pas. Pour conclure, je vous présente la famille de Luca et Patrizia Vaccarono. Ils habitent dans une petite ville près de Rome, en Italie. Ils ont récemment écrit « Nous avons décidé, ayant eu quelques expériences, qu'il était important de faire des réserves des choses que nous utilisons. Nous devons parfois modifier nos habitudes alimentaires. Le sentiment de paix est le désir d'être fidèle aux commandements donnés par le Seigneur par l'intermédiaire du prophète actuel nous aide à ressentir le Saint-Esprit, à ne pas avoir peur et à voir que les signes de la seconde venue du Seigneur sont une bénédiction, non pas quelque chose à craindre. Cela nous réjouit, cela nous donne la motivation d'être fidèles et de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés et obtenir la vie éternelle. Pour terminer, frère Vaccarono écrit « Excusez mon anglais. J'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer. Frères et sœurs Vaccarono, nous comprenons. Parce que cela se trouve dans les Écritures. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. »
Thank you, brethren.
Merci les frères. Le chœur et l'assemblée chanteront ensuite « Vivons ce bonheur ». James E. Faust, deuxième conseiller dans la première présidence, nous adressera ensuite la parole. Après son discours, j'aurai le plaisir de vous adresser la parole. Le chœur et l'assemblée chanteront.
Brethren, tonight,
mes frères, ce soir, je voudrais vous parler comme je parlerai à mes petits-fils. J'espère que ce que j'ai à dire s'appliquera à tous les jeunes détenteurs de la prêtrise de partout. En pensant à la grande assemblée et aussi aux milliers d'autres frères qui se sont joints à nous par satellite, je me rappelle que la grande bénédiction de détenir la prêtrise est réservée à un nombre relativement restreint, compte tenu des milliards de personnes qui vivent sur la terre. Détenir la prêtrise est un grand honneur. Pourtant, n'importe quel homme ou garçon de plus de 12 ans, digne dans l'Église, peut la recevoir. La prêtrise est l'autorité déléguée à l'homme d'exercer le ministère au nom de Dieu. C'est un pouvoir que personne ne peut assumer de sa propre initiative. Comme Paul l'a dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. C'est une autorité qu'aucun pouvoir humain ne peut créer. Peter, un jeune prêtre, parle d'une expérience qui lui a enseigné que le pouvoir de la prêtrise est bien réel. Un jeune converti de sa paroisse en Ontario, au Canada, a été soutenu comme instructeur dans la prêtrise d'Aaron. Et Peter a été invité à être le porte-parole dans l'ordination. Il a écrit, « Je n'avais encore jamais fait l'imposition des mains à personne, et je ne me sentais absolument pas à la hauteur. Mais l'Esprit m'a assuré que c'est bien que je le fasse. » Le jeune homme ordonné s'est assis sur la chaise et je me suis mis directement derrière lui. Notre président des jeunes gens m'a guidé pour la prière d'ordination et j'ai répété chaque mot qu'il a dit. Une fois l'ordination terminée et après que nous avons dit « et nous souhaitons te donner maintenant une bénédiction », le président des jeunes gens m'a regardé et m'a fait signe que je devais continuer tout seul. À ce moment-là, la prêtrise a entièrement changé de signification pour moi. Elle n'était plus un simple titre, mais l'autorité réelle d'agir au nom de Dieu. Et je donnais cette autorité à quelqu'un d'autre. J'ai fait une pause, et j'ai attendu que l'Esprit me chuchote ce que je devais dire. Il est difficile de décrire les sentiments que j'ai eus ce jour-là, pendant la bénédiction. Je peux dire que j'ai maintenant un témoignage plus fort que le pouvoir de la prêtrise est réel. Jeunes gens, vous vous réjouissez sans aucun doute de recevoir la prêtrise supérieure ou prêtrise de Melchizedek. Joseph Smith, le prophète, a dit à propos de cette prêtrise supérieure, elle fut instituée avant la fondation de la terre, avant que les étoiles du matin eussent éclaté en chants d'allégresse et que les fils de Dieu eussent poussé des cris de joie. Et c'est la prêtrise la plus haute et la plus sainte. Elle est selon l'ordre du Fils de Dieu. Comme détenteurs de la prêtrise, nous sommes agents du Seigneur. Il a parlé de cette intendance sacrée aux anciens de l'Église à Kirtland en 1831. C'est pourquoi, puisque vous êtes agents, vous êtes en mission pour le Seigneur, et tout ce que vous faites selon la volonté du Seigneur constitue les affaires du Seigneur. Le président Hinckley nous a souvent rappelé que l'œuvre missionnaire est essentiellement une responsabilité de la prêtrise. C'est un grand honneur et une grande responsabilité que d'être appelé à servir le Seigneur dans l'œuvre missionnaire. Ce service apporte une joie durable, bien qu'il puisse également parfois être difficile et décourageant. Ma mission a changé le cours de ma vie. Elle a été une des plus grandes expériences que j'ai jamais vécues. Faire une mission nous prépare pour l'œuvre du reste de notre vie et pour notre œuvre éternelle. J'espère que chacun de vous deviendra un homme de Dieu. Vous le deviendrez par des œuvres de justice. Vous honorerez et magnifierez votre prêtrise. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, recherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Il n'est pas toujours facile de suivre un plan juste et d'être obéissant aux lois de la société et aux lois du Seigneur. Mais en fin de compte, le respect des règles reste la meilleure façon
d'obtenir tout ce que le Seigneur nous a promis. Nous sommes tous responsables de nos actes. Mon expérience d'homme de loi m'a appris que ceux qui mènent une vie de délit rendent souvent leur père, leur mère ou la société responsables quand ils sont emprisonnés. Pourtant, ils ont obstinément choisi d'agir à l'encontre de la nature de Dieu et sont par conséquent dans un état contraire à la nature du bonheur. Certains d'entre eux prétendent même « c'est le diable qui m'a incité à le faire ». Ce qui est vrai là-dedans, c'est que le diable nous incite à faire le mal. Ce qui est faux, c'est que nous n'avons pas libre arbitre. Le diable ne peut pas nous obliger à faire ce que nous décidons de ne pas faire. Nous pouvons tous tomber sur des pièges, que ce soit dans notre jeunesse, à l'âge mûr, dans la vieillesse. Comme quelqu'un l'a un jour observé, dans notre jeunesse, nous allons vers la difficulté. Dans la vieillesse, les difficultés viennent à nous. La permissivité plus grande de notre société nous oblige à nous accrocher fermement à la barre de fer de la justice afin de recevoir les bénédictions et la protection du Seigneur. C'est courir un grand risque que de flirter avec les tentations de Satan. Nous devrons nous protéger contre toutes les formes du mal, tous les jours de notre vie. Vous tous, jeunes gens, qui détenez la prêtrise, vous avez le devoir de respecter les femmes. Quand vous sortez avec les belles jeunes filles de l'Église, vous avez le devoir de protéger leur sécurité et leur vertu physique. La prêtrise que vous détenez vous donne la responsabilité plus grande de veiller à ce que les principes moraux élevés de l'Église soient toujours respectés. Vous êtes suffisamment intelligent pour ne pas vous approcher du bord de la tentation sexuelle. Vous perdrez une partie de ce qui est sacré en vous si vous allez au-delà du bord et faites mauvais usage des grands pouvoirs de la procréation. Comment pouvons-nous espérer jouer un grand rôle dans le temps ou l'éternité si nous ne sommes pas capables de nous maîtriser? Une des plus grandes bénédictions de la vie et de l'éternité est d'être marié avec une femme juste qui aime le Seigneur, qui vous aime et qui respecte la prêtrise. C'est ce que j'ai appris. C'est ce qu'on m'a appris 60 ans de mariage avec ma femme, Ruth. Les amis et les connaissances ajoutent beaucoup à la richesse de la vie. Mais ces relations peuvent être provisoires. Le plus souvent, d'ailleurs. Personne ne vous aime plus ni ne soucie davantage de votre bien-être que vos parents. Vous pouvez mettre en doute ce qu'ils vous disent, mais vous ne pouvez pas douter de leur amour pour vous, ni de leur intérêt pour votre bien-être. Le moment viendra, jeunes gens, où vous aurez la responsabilité de vous occuper d'une femme et d'enfants qui dépendront de vous. Quand vous vous marierez, vous serez responsable du bien-être de votre femme, puis du bien-être de vos enfants, quand vous fonderez une famille. Le mariage, la paternité peuvent vous apporter un bonheur et une joie éternelle. Comme Joseph Smith l'a dit, c'est sur la vie de famille que le gouvernement de l'Église est basé et perpétué. Pour trouver un épanouissement sublime au foyer, les deux partenaires doivent être totalement engagés vis-à-vis du mariage. David O. McKay a dit un jour, « Dès l'instant où l'on fait passer ses affaires ou son plaisir avant son foyer, on se lance sur la pente de la faiblesse de l'âme. » Et il y en a parmi nous, parmi vous qui sont bien partis pour réaliser certains de leurs buts dans la vie. Nous sommes fiers de vous. Mon père m'a dit un jour qu'il pensait qu'il serait arrivé quand il sortirait de la faculté de droit avec son diplôme. Il a dit que dans un sens, son diplôme n'était en réalité que le commencement de plus grands défis. Nous ne serons jamais arrivés, ni ne serons jamais à l'abri des difficultés du monde dans cette vie. Nous vivons à une époque de spécialisation. Quand j'étais enfant, beaucoup de gens avaient des Ford T. Par rapport aux voitures modernes, elles avaient une mécanique relativement simple. Beaucoup de gens pouvaient réparer eux-mêmes leurs voitures, en rectifiant les soupapes, en remplaçant les segments des pistons, en mettant de nouvelles plaquettes de frein et en utilisant une quantité généreuse de fils d'emballage. De nos jours, les voitures sont si sophistiquées que la personne moyenne en sait très peu sur la façon de réparer. Les mécaniciens d'aujourd'hui ont recours à l'ordinateur pour diagnostiquer les problèmes de moteur. Je mentionne cet exemple pour vous inciter, jeunes gens, à acquérir la formation, l'instruction, pour être à la hauteur. La formation technique est très importante. Et cela vaut aussi pour les branches des études supérieures. Toutes les branches nécessitent une spécialisation. Peu m'importe le métier que vous choisissez dans la vie, à condition qu'il soit honorable. À vous de décider comment vous allez pourvoir aux besoins de votre famille. L'acquisition d'une compétence est une bonne manière de payer les factures. Mais s'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de plus, en fait, d'application personnelle, ne vous préoccupez pas des choses matérielles de la vie au point de perdre l'essence, la substance de votre humanité. Souvenez-vous de Jacob Marley, le personnage de Dickens, qui regrette son obsession pour le travail quand il s'exclame « Le commerce, c'est une humanité qui était mon commerce. C'était son bien-être commun qui était mon commerce. Chacun de nous doit faire quelque chose pour fortifier la société, en particulier en accomplissant l'œuvre de Dieu. » J'ai appris que pour ceux d'entre nous qui détiennent la prêtrise, la meilleure formule du succès est « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le succès ne viendra pas immédiatement, parce qu'il exige de la préparation et beaucoup de travail. Il n'y a vraiment pas de raccourci vers le succès. Chacun de nous est une création unique de notre Père Céleste. Il n'y a pas deux d'entre nous qui soient complètement semblables. Personne d'autre n'a exactement les mêmes dons, les mêmes talents que ceux qui nous ont été donnés. Nous devons cultiver ces talents et ces dons et les utiliser pour multiplier ce qu'il y a d'unique en nous. Par exemple, quand j'étais jeune, il y avait dans mon quartier un excellent jeune homme qui n'était pas un savant, un érudit, mais qui faisait de beaux meubles de ses mains. Nous avons tous deux été appelés sous les drapeaux le même jour. Il ne pouvait pas apprendre à faire son lit au carré pour les inspections. Et j'essayais de l'aider. Mais il pouvait faire de petites merveilles avec des morceaux de bois. Comme l'a dit Howard Hunter, il y en a qui pensent que le talent, la créativité, la stabilité morale ou la grandeur n'appartiennent pas à la jeunesse, mais sont réservés aux gens plus âgés. Il n'en est pas ainsi. Jeunes gens, vous avez un avenir prometteur. Vous êtes bénéficiaires d'une connaissance que le monde n'a encore jamais eue. Cette connaissance vous permettra de contribuer à l'avenir du commerce, de l'industrie et de l'agriculture moderne et des professions libérales. Vous pouvez être parmi ceux qui défendront un mode de vie sur les champs de bataille. Vous serez parmi ceux qui répandent les principes de l'Évangile dans le monde et aident l'Évangile à grandir. Maintenant, mes chers petits-fils, et vous tous, jeunes gens formidables qui m'entendez, allez de l'avant. Allez de l'avant avec foi et justice. Si vous le faites, le Seigneur vous fortifiera et vous magnifiera, de sorte que vous accomplirez de grandes choses. Je témoigne de la grande et profonde influence que la prêtrise a eue sur ma vie. Pendant toutes ces longues années de ma vie, j'ai essayé de ne pas cacher qui je suis et ce que je crois. Je ne peux pas me rappeler un seul cas où le fait de reconnaître humblement que j'étais membre de l'Église m'ait fait perdre des amis précieux. Je vous rends témoignage aujourd'hui et je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Brethren, we're assembled this evening.
Nous, frères de la prêtrise assemblés ce soir, formons un groupe puissant ici au centre de conférence et dans le monde entier. C'est pour moi un honneur de vous adresser la parole ce soir. Je prie pour que l'inspiration du Seigneur guide mes pensées et inspire mes paroles. Depuis plusieurs semaines, je réfléchissais à ce que je pourrais vous dire ce soir, et à plusieurs reprises, j'ai pensé à la bénédiction que nous avons de détenir la prêtrise sacrée de Dieu. Quand nous regardons toute cette terre avec une population de plus de 6 milliards et demi d'habitants, nous nous rendons compte que nous sommes un tout petit groupe d'élus. Nous, qui détenons la prêtrise, sommes, selon les paroles de l'apôtre Pierre, une race élue, un sacerdoce royal. Joseph F. Smith a dit que la prêtrise est le pouvoir que Dieu a délégué à l'homme, qui peut l'utiliser sur la terre pour le salut du genre humain, et qui peut l'utiliser pour exprimer la volonté de Dieu, comme si des anges étaient présents pour l'exprimer eux-mêmes. Elle donne à l'homme le pouvoir de lier sur la terre, et cela sera lié dans les cieux, de délier sur la terre, et cela sera délié dans les cieux. Le président Smith a ajouté, « La prêtrise est sacrée et doit être considérée comme sacrée par le peuple. Mes frères, la prêtrise est un don qui s'accompagne non seulement de bénédictions spéciales, mais aussi de responsabilités solennelles. Nous avons la responsabilité de vivre de manière à toujours être dignes de la prêtrise que nous détenons. Nous vivons à une époque où nous sommes entourés de beaucoup de choses destinées à nous inciter à suivre des voies qui peuvent nous conduire à la destruction. Pour les éviter, il faut faire preuve de détermination et de courage. Le courage compte. Cette vérité m'est apparue de manière très vive et très spectaculaire il y a de nombreuses années. J'étais alors évêque. La session générale de notre conférence de pieux avait lieu à l'Assembly Hall de Temple Square à Salt Lake City. Notre présence de pieux devait être réorganisée. La prêtrise d'Aaron, y compris des membres de l'Épiscopat, assurait la musique de la conférence. À la fin de notre premier cantique, Joseph Finning Smith, président de l'Église d'alors, qui était en visite pour une conférence, s'est avancé à la chaire et a lu les noms de les membres de la nouvelle présence de pieux pour qu'ils soient soutenus. Il a indiqué que Fetzer serait le président et qu'un autre frère serait conseiller. Ils avaient été informés de leur appel. Mais, cependant, il a ensuite indiqué, après avoir lu mon nom, que je serais le deuxième conseiller dans la présidence de pieux. Et je n'étais pas du tout au courant. Tandis que je me suis préparé à en être un conseiller dans cette présidence de pieux, je me suis souvenu du chant que nous venions de chanter. Il parlait de la parole de sagesse et s'intitulait « Aie le courage, mon garçon, de dire non ». Ce jour-là, j'ai choisi comme thème de mon acceptation « Aie le courage, mon garçon, de dire oui ». Chacun de nous est constamment appelé à avoir du courage. Le courage de défendre fermement nos convictions. Le courage de nous acquitter de nos responsabilités. Le courage d'honorer notre prêtrise. Partout où nous allons, notre prêtrise nous accompagne. Nous tenons-nous en des lieux saints? J. Reuben Clark, qui a été conseiller dans la première présidence pendant de nombreuses années, a dit, la prêtrise n'est pas comme un vêtement que l'on peut enlever et remettre. Il dépend de nous qu'elle soit une dotation éternelle. Il a ajouté, si nous étions vraiment convaincus que nous ne pouvons pas mettre la prêtrise de côté et que Dieu nous rendrait responsables si nous la maltraitions, cela nous éviterait de faire beaucoup de choses et nous protégerait d'aller dans un grand nombre d'endroits. Si, chaque fois que nous commençons à nous éloigner un peu du chemin droit et resserré, nous nous rappelions « J'emporte ma prêtrise à cet endroit. Est-ce que je dois le faire ? » Il ne nous faudrait pas longtemps pour revenir sur le chemin droit et resserré. Fin de citation. Le président Kimball a dit, Le pouvoir de la prêtrise que vous détenez ne connaît pas de limites. Les limites viennent de vous. Si vous ne vivez pas conformément à l'Esprit du Seigneur et que vous limitez le pouvoir que vous exercez, mes frères de la prêtrise, du plus jeune au plus âgé, menez-vous une vie en accord avec ce que le Seigneur requiert? Êtes-vous digne de détenir la prêtrise de Dieu? Si ce n'est pas le cas, prenez dès maintenant la décision. Rassemblez le courage qu'il faut et faites les changements qui sont nécessaires pour que votre vie soit ce qu'elle doit être. Pour traverser sain et sauf la condition mortelle, nous devons être guidés par le grand marin éternel, le grand Jéhovah. Si le Seigneur nous a confié une mission, nous avons droit à son aide. Elle m'a été accordée à d'innombrables occasions dans la vie. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, j'avais 18 ans et j'étais ordonné ancien une semaine avant de partir en service actif dans la marine. Un membre de mon épiscopat était à la gare pour me dire au revoir. Juste avant l'arrivée du train, il m'a mis dans la main un livre que je vous montre ce soir. Il a pour titre « Le manuel d'instruction du missionnaire » 1944. J'ai ri en disant « Mais je vais être dans la marine, pas en mission. » Il a répondu « Prends-le quand même. » Il peut se montrer pratique. Et il l'a été. Pendant les classes, notre commandant de compagnie nous a appris comment mieux faire notre paquetage dans un grand sac de marin. Il nous a conseillé, si vous avez un objet rectangulaire et rigide, mettez-le au fond de votre sac. Vos vêtements resteront davantage en place. Je me suis soudain rappelé que j'avais juste le bon objet rectangulaire. Le manuel d'instruction du missionnaire. Il a donc servi pendant 12 semaines au fond de mon sac de marin. Le soir, la veille de notre permission de Noël, nous pensions comme toujours à notre foyer. La caserne était tranquille. Soudain, je me suis aperçu que mon copain, qui occupait le lit voisin, et était membre de l'église, Leland Merrill, gémissait de douleur. Je lui ai demandé, « Qu'est-ce que tu as, Merrill ?» Il m'a répondu, « Je suis malade, vraiment malade. » Je lui ai conseillé d'aller à l'infirmerie de la caserne, mais il m'a répondu d'un air attendu que s'il y allait, il ne pourrait pas aller chez lui pour Noël. Je pense, suggéré de rester silencieux pour ne pas réveiller tous les autres dans le baraquement. Les heures se sont faites longues. Il gémissait de plus en plus fort. Alors, en désespoir de cause, il a murmuré, « Monson, tu es ancien, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé. Alors, il m'a demandé, « Donne-moi une bénédiction. » Je me suis rendu compte, avec une grande acuité, que je n'avais jamais donné de bénédiction. Je n'avais jamais reçu une telle bénédiction. Je n'y avais même jamais assisté. J'ai prié Dieu pour qu'il m'aide. La réponse a été « Regarde dans le fond de ton sac de marin ». Alors, à 2 heures du matin, j'ai vidé sur le pont le contenu du sac. J'ai ensuite sorti dans la pénombre de la nuit cet objet dur et rectangulaire, le manuel d'instruction du missionnaire, et j'ai lu comment on bénit les malades. Devant environ 120 marins curieux qui regardaient, j'ai donné la bénédiction. Avant que je puisse ranger mes affaires, Leland Merrill dormait comme un enfant. Le lendemain matin, Merrill s'est tourné vers moi en souriant et m'a dit, « Monson, je suis content que tu détiennes la prêtrise. » Seule ma reconnaissance dépassait sa joie. Reconnaissance non seulement d'avoir la prêtrise, mais d'être digne de recevoir l'aide que je demandais quand elle était nécessaire et d'exercer le pouvoir de la prêtrise. Mes frères, notre Seigneur et Sauveur a dit « Viens et suis-moi ». Si nous acceptons son invitation et que nous marchons sur ses traces, il dirigera nos pas. En avril 2000, j'ai senti cette direction. J'avais reçu un appel de Rosa Salas Gifford, que je ne connaissais pas. Elle expliquait que ses parents étaient venus la voir du Costa Rica quelques mois auparavant et que juste une semaine avant son coup de fil, on avait diagnostiqué que son père, Bernardo Augusto Salas, avait un cancer du foie. Elle disait que les médecins avaient informé la famille que son père ne survivrait que quelques jours. Elle expliquait qu'il voulait beaucoup me rencontrer avant de mourir. Elle a laissé son adresse et a demandé si je pouvais venir chez elle, à Salt Lake City, parler avec son père. En raison de réunions et d'obligations, je quittais mon bureau très tard, mais au lieu de rentrer directement chez moi, je me suis senti poussé à aller vers le sud et à passer voir Frère Salas le soir même. L'adresse à la main, j'ai essayé de trouver la maison. La circulation était dense et le jour tombait quand j'ai dépassé l'endroit où aurait dû être la route qui menait chez eux. Je ne voyais rien. Je n'abandonne pas facilement. J'ai fait le tour du pâté de maison en voiture et je suis revenu. Toujours rien. J'ai essayé encore une fois. Toujours pas de trace de la route. J'ai commencé à ressentir que je serais justifié de faire demi-tour pour rentrer chez moi. J'avais fait un bel effort, mais n'avais pas réussi à trouver l'adresse. Au lieu de cela, j'ai fait une prière silencieuse pour demander de l'aide. L'inspiration m'est venue de m'approcher de l'endroit dans la direction opposée. J'ai parcouru une certaine distance, puis j'ai fait demi-tour, de sorte que je me suis retrouvé de l'autre côté de la route. Dans ce sens, la circulation était beaucoup moins dense. En m'approchant encore de l'endroit, j'ai pu voir dans la faible lumière un panneau de rue qui était couché sur le bord de la route et presque invisible, une voie couverte d'herbe qui conduisait à un petit bâtiment et à une minuscule petite résidence à quelques distances de la route principale. Tandis que j'approchais des bâtiments, une petite fille en robe blanche m'a fait signe, et j'ai compris que j'avais trouvé la famille. On m'a fait entrer dans l'appartement, puis dans la chambre où était couché Frère Salas. Trois filles et un gendre étaient autour du lit, ainsi que Sœur Salas. Tous, sauf le gendre, étaient originaires du Costa Rica. Le visage de Frère Salas reflétait la gravité de son état. Il avait un linge humide aux bords élimés sur le front. C'était vraiment un morceau de tissu en mauvais état et non pas une serviette, ce qui soulignait la pauvreté de la famille. Dans un murmure, Frère Salas a ouvert les yeux et un pâle sourire a éclairé son visage quand je lui ai pris la main. J'ai dit, je suis venu vous voir. Il avait les larmes aux yeux, et moi aussi. Je demandais si l'on désirait une bénédiction, et les membres de la famille ont accepté à l'unanimité. Comme le gendre ne tenait pas la prêtrise, j'ai donné seul la bénédiction. Les mots semblaient venir librement sous l'direction de l'Esprit du Seigneur. J'ai dit les paroles du Seigneur citées dans la section 84 des Doctrines Alliance, au verset 88. « J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges tout autour de vous pour vous soutenir. » Après la bénédiction, j'ai prononcé quelques paroles de réconfort aux membres de la famille éprouvés. J'ai parlé distinctement afin qu'ils puissent comprendre mon anglais. Puis, avec le peu d'espagnol que je connais, je leur ai dit que je les aimais et que notre Père Céleste les bénirait. J'ai demandé la Bible familiale et leur ai montré 3 Jean, verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je leur ai dit, c'est ce que votre mari et votre père voudraient que vous rappeliez, alors qu'ils se préparent à quitter cette vie terrestre. La gentille femme de Frère Salas m'a ensuite demandé, en pleurant, si je voulais écrire les références des 2 passages d'Écriture dont je leur ai fait part, pour que la famille puisse les relire. Comme je n'avais rien sous la main pour écrire, Sœur Salas a cherché dans son porte-monnaie et en a tiré un bout de papier. En le lui prenant, j'ai vu qu'il s'agissait d'un reçu de dîme. J'ai été touché quand j'ai compris que, malgré les conditions d'extrême pauvreté dans lesquelles la famille vivait, elle payait fidèlement la dîme. Après de tendres adieux, on m'a escorté jusqu'à ma voiture. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi à l'esprit spécial que nous avions ressenti. J'ai eu, comme souvent auparavant, de la reconnaissance envers mon Père Céleste d'avoir répondu à la prière de quelqu'un d'autre par mon intermédiaire. Mes frères, rappelons-nous toujours que la prêtrise de Dieu que nous détenons est un don sacré qui nous apporte, à nous et aux gens que nous servons, les bénédictions des cieux. Où que nous soyons, honorons et protégeons la prêtrise. Soyons toujours en mission pour le Seigneur, afin d'avoir toujours droit à son aide. Une guerre fait rage dont l'enjeu est l'âme des hommes, la vôtre et la mienne. Elle continue sans connaître de trêve. La parole du Seigneur résonne comme une trompette à vos oreilles, aux miennes et à celles de tous les détenteurs de la prêtrise, de partout. C'est pourquoi que chaque homme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné, et ce, en toute diligence. Je prie pour que nous ayons chacun le courage de le faire. Au nom de Jésus-Christ, Jésus, notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Amen.
Nous vous rappelons que l'émission du Chœur du Tabernacle
la session du dimanche fera suite. Nous remercions le chœur de l'Université de Brigham Young pour leur merveilleuse musique ce soir. Notre orateur ce soir sera président Gordon Binkley, notre prophète bien-aimé. Ensuite, le chœur chantera « I love the Lord ». Will then be offered by Elder Paul B. Johnson of the Seventh-day, President Hinckley.
President Hinckley.
My dear brethren of the priesthood, what an inspiration it is to look into the faces
quelle inspiration que de contempler les visages de 21 000 frères qui sont ici au centre de conférence, sachant que des millions d'autres sont rassemblés dans les salles des églises et d'autres endroits dans le monde entier. Je regrette d'être si vieux à un moment où la vie est de plus en plus passionnante. Comme vous le savez tous, j'ai été ordonné et mis à part comme président de l'Église il y a 12 ans, très exactement, le 12 mars 1995, pour être précis. Frère Ballard a réuni quelques chiffres sur les 12 dernières années. Je le cite, 387 750 missionnaires sont entrés dans le champ de la mission, ce qui représente presque 40% des missionnaires qui ont jamais œuvré dans cette dispensation, c'est-à-dire 40% dans les 12 années les plus récentes des 177 années depuis que l'Église a été organisée. 3 400 000 convertis ont été baptisés, ce qui est l'équivalent de plus du quart de la population totale actuelle de l'Église. Le nombre total de missions dans l'Église est passé de 303 à 344,
auxquels 3 autres vont bientôt s'ajouter. Le maintien des convertis dans l'Église, mesuré par l'assistance à la réunion de Sainte-Seine, les ordinations dans la prêtrise et la fidélité à la dîme, a augmenté sensiblement. Bien que tout cela ait été extrêmement important, je suis convaincu qu'avec un peu plus de consécration, ce passé récent merveilleux peut n'être que le prologue d'un avenir plus grand. Mettons-nous tous à l'ouvrage et avec ardeur, travaillons, faisons notre devoir, le cœur rempli de soleil, chantons. Cette cause a besoin d'ouvriers. N'hésitons pas. Pour le Seigneur, travaillons. Je voudrais maintenant passer à autre chose. J'ai parlé de ce même sujet il y a bien des années. Je le répète, parce que ceux qui l'ont entendu à ce moment-là l'ont oublié depuis longtemps, et que ceux qui ne l'ont pas entendu ont besoin de l'entendre. Cela concerne Joseph Fielding Smith, qui a été président de l'Église de 1901 à 1918. 17 ans en tout. Joseph F. Smith était fils de Hiram Smith, qui était frère de Joseph, le prophète, et a subi le martyre avec lui à Carthage. Joseph F. est né le 13 novembre 1838 à Far West, dans le Missouri. Il était bébé quand il a quitté le Missouri. Il n'avait pas encore 6 ans quand il a entendu frapper à la fenêtre de la maison de sa mère, à Nauvoo. C'était un homme qui était accouru à cheval de Carthage et qui a dit à Sir Smith que son mari avait été tué cet après-midi-là. À l'âge de 9 ans, Joseph Smith traversait les plaines avec sa mère jusqu'à cette vallée en conduisant un attelage de bœufs. À l'âge de 15 ans, il a été appelé en mission à Hawaï. Il s'est rendu jusqu'à San Francisco, où il a travaillé dans une fabrique de bardeaux pour gagner assez d'argent pour son billet pour les îles. À l'époque, Hawaï n'était pas un centre touristique. Elle était peuplée de Hawaïens indigènes, qui étaient pour la plupart pauvres, mais généreux de ce qu'ils avaient. Il a appris à parler leur langue et à les aimer. Tandis qu'il œuvrait là-bas, il a eu un songe remarquable. Je cite son récit à ce sujet. J'étais très oppressé quand j'étais en mission. J'étais presque nu et absolument sans amis, excepté l'amitié d'un pauvre peuple ignorant. J'avais l'impression que j'étais à ce point rabaissé dans mon état de pauvreté, de manque d'intelligence et de connaissances, un simple gamin, que c'était à peine si j'osais regarder un homme dans les yeux. Pendant que j'étais dans cet état, je rêvais une nuit que j'étais en voyage et j'eus le sentiment que je devais me dépêcher de toutes mes forces, de peur d'arriver trop tard. Je courus le plus vite que je pus, et j'avais conscience de n'avoir qu'un petit baluchon, un mouchard enveloppant un petit paquet. Je ne me rendais pas compte de ce que c'était, étant donné que je me dépêchais autant que je pouvais. Mais j'arrivais finalement devant une splendide demeure. Il me sembla que je savais que c'était là ma destination. Tandis que je me dirigeais le plus vite possible vers elle, je vis un panneau où il était écrit « Bain, B-A-I-N ». Je me détournai rapidement, entrai dans le bain et me lavai. J'ouvris ce petit baluchon que j'avais, et il s'y trouvait une paire de vêtements blancs et propres, une chose que je n'avais pas vue depuis longtemps, parce que le peuple au milieu duquel je me trouvais ne voyait pas l'importance de rendre les choses particulièrement propres. Mais mes vêtements étaient propres, et je m'en revêtis. Ensuite, je me précipitai vers ce qui semblait être une grande ouverture ou porte. Je frappai, la porte s'ouvrit, et l'homme qui se tenait là était Joseph Smith, le prophète. Il me regarda avec un peu de reproche, et le premier mot qu'il dit fut « Joseph, tu es en retard ». Néanmoins, je m'enhardis et répliquai « Oui, mais je suis pur ». Je suis pur. Et il me prit la main et m'entraîna à l'intérieur. Puis il ferma la grande porte. Je sentis sa main aussi tangible que toutes les mains d'hommes que j'ai jamais senties. Je le connaissais. Et quand j'entrai, je vis mon père, Brigham Young, Heber C. Kimball et Willard Richards. Et d'autres hommes de bien que j'avais connus qui formaient une rangée. Je balayais cette salle du regard comme si c'était une vallée, et elle me semblait remplie d'une vaste multitude. Mais sur la scène se trouvaient toutes les personnes que j'avais connues. Ma mère était là, et elle était assise avec un enfant sur les genoux. Et je pourrais citer tous ceux dont je me rappelle les noms, qui étaient assis là, qui semblaient être parmi les élus, parmi les exaltés. Quand j'eus ce songe, j'étais seul sur une natte, bien loin dans les montagnes de Hawaï. Personne n'était avec moi. Mais dans cette vision, je posai la main sur le prophète, et je vis un sourire apparaître sur son visage. Quand je me réveillais ce matin-là, j'étais un homme, bien que seulement un garçon. Il n'y avait plus rien au monde que je craignais après cela. Je pouvais rencontrer n'importe quel homme, ou femme, ou enfant, et les regarder dans les yeux, me sentant dans mon âme, homme, à tout point de vue. Cette vision, cette manifestation et ce témoignage que j'eus à ce moment-là ont fait de moi ce que je suis. S'il y a en moi quoi que ce soit de bon, de pur ou de droit devant le Seigneur, cela m'a aidé à sortir de toutes mes épreuves et à traverser toutes les difficultés. Le point crucial de ce songe important réside dans le reproche fait par Joseph Smith au jeune Joseph F. Le prophète lui dit, « Joseph, tu es en retard. » Joseph F. répond, « Oui, mais je suis pur, je suis pur. » Ce songe a eu pour résultat qu'il a changé un garçon en homme. Sa déclaration, « Je suis pur », lui a donné l'assurance et le courage de faire face à n'importe qui et à n'importe quelle situation. Il a reçu la force que donne une bonne conscience renforcée par l'approbation de Joseph le prophète. Ce songe prophétique contient quelque chose pour chacun des hommes et chacun des garçons réunis ce soir dans cette vaste assemblée. Un vieux dicton en usage parmi nous dit que la pureté est la compagne de la piété. Ésaïe le prophète a dit, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Dans la révélation moderne, le Seigneur a dit, « Soyez purs, vous qui portez les vases du Seigneur. Dans un monde qui se vautre dans la souillure, soyez purs, dans le langage, dans la pensée, dans le corps, dans l'habillement. À chacun de vous, je dis, soyez purs dans votre langage. Il y a tellement de vocabulaire malpropre et sordide de nos jours. Si vous ne vous exprimez pas dans un langage marqué par la pureté, cela vous stigmatisera comme quelqu'un dont le vocabulaire est extrêmement limité. Quand il a écrit sur les tables de pierre, Jéhovah a dit aux enfants d'Israël, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Le Seigneur a souligné ce commandement dans la révélation moderne. Souvenez-vous que ce qui vient d'en haut est sacré et doit être dit avec prudence et sous la contrainte de l'Esprit. Soyez purs en pensée. Le Seigneur a dit, « Que tout se fasse en pureté devant moi. » Un esprit souillé s'exprime dans un langage souillé et grossier. Un esprit pur s'exprime dans un langage qui est positif et édifiant et par des actes qui apportent le bonheur au cœur. Soyez purs dans le corps, dans l'habillement et dans vos manières. Ne vous faites pas tatouer. Si vous le faites, il viendra un jour où vous le regretterez. Seul un procédé douloureux et coûteux peut enlever le tatouage. Soyez purs, nets et ordonnés. Un habillement négligé entraîne des manières négligées. Je m'inquiète moins de savoir ce que vous portez que de savoir que c'est net et soigné. Rappelez-vous le songe de Joseph F. Smith. Pendant qu'il se dépêchait vers la demeure, il avait un petit baluchon emballé dans un mouchoir. Quand il s'est baigné et qu'il l'a ouvert, il a constaté qu'il contenait des vêtements propres. Toutes les fois que vous bénissez ou distribuez la Sainte Cène, veillez à la qualité de votre tenue. Soyez sûr de votre propreté personnelle. Et ainsi, mes chers frères, je pourrais continuer. Je pourrais vous parler de ce qui se passe sur l'Internet et dans l'utilisation de l'ordinateur, qui mène à des pensées et à des actions dégradantes, qu'il suffise de dire que cela ne vous convient pas du tout, à vous qui détenez la prêtrise de Dieu. Vous êtes ses serviteurs choisis. Vous avez été ordonnés à quelque chose de saint et de merveilleux. Vous ne pouvez pas vivre dans le monde et participer aux voies du monde. Vous devez être au-dessus de tout cela. Puisse le Seigneur vous bénir, mes frères bien-aimés. Je vous dis, à vous, les garçons, poursuivez vos études. Quand vous vous marierez, c'est à vous qu'il appartiendra de pourvoir aux besoins de votre famille. Un monde de possibilités vous attend, et les études sont la clé qui ouvrira cette porte. Ce sera la porte de la demeure dont Joseph F. Smith a rêvé quand il était jeune et dormait sur une montagne à Hawaï. Que Dieu vous bénisse, mes frères bien-aimés. Parlez avec le Seigneur par la prière. Restez proche de lui. Il est le Tout-Puissant qui a le pouvoir de relever et d'aider. Je prie pour qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our Father in heaven,
notre Père aux cieux, nous baissons notre tête devant toi, nous pressons devant toi pour te remercier pour cette réunion de prêtrises magnifiques. Nous sommes très reconnaissants de vivre à cette époque si importante de l'histoire du monde, une époque où la prêtrise a été rétablie. Nous sommes reconnaissants d'avoir un prophète et des apôtres. Nous sommes reconnaissants pour les messages qui ont été donnés, prononcés et reçus ce soir. Nous te demandons de nous bénir afin que nous ayons ton esprit, pour que les pensées et les sentiments de cette soirée, à travers ces messages, puissent rester en nous, que nous puissions être purs et que nous puissions être ouverts à cet esprit et de dignes détenteurs de la prêtrise. Nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'occasion d'entendre parler notre prophète bien-aimé, président Gordon Binkley, d'avoir entendu ses conseillers et d'autres. Nous te demandons, s'il te plaît, de demeurer avec nous et de nous aider en nous fortifiant. Au nom de Jésus-Christ, Amen.